La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée au MUCEM à Marseille pour découvrir Made in Algeria, une exposition dédiée à la cartographie de la conquête de l'Algérie par l'Empire français.
Bonjour. L'expo, la porte de l'expo est ouverte. Bienvenue. Merci. Voilà. Approchons-nous, venez. Je tenais juste donc à rappeler que on est dans un parcours chronologique du point de vue de la temporalité, dans une exposition donc qui est dédiée à la représentation du territoire algérien, comment il a été représenté, tracé, cartographié donc aussi, et capté, mais au sens à la fois captation du territoire et capté au sens de la subjectivité aussi de ce territoire. La plupart des pièces que vous verrez ici n'ont jamais été exposées. Alors ne parlons pas des cartes qui, elles, n'ont jamais été montrées, mais même certaines des peintures qui sont présentées ici ne sont pas sorties des réserves du château de Versailles depuis plus d'un siècle. D'autres pièces viennent des archives nationales de l'Outre-mer. Elles n'avaient pas vocation à être exposées, ce sont des affiches. Elles sont présentées aussi pour la première fois. Et puis surtout aussi...
Mon nom est Zaya Ramani et je suis la co-commissaire de l'exposition. Nous sommes deux à avoir fait cette exposition. Jean-Yves Sarrazin, qui est le directeur du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, et moi-même. Zaya Ramani, je suis née en Algérie en 1962 et je suis arrivée en France en 1967.
Voilà. Zaya Ramani, vous écrivez aussi en votre nom dans ce catalogue d'exposition et vous parlez de votre histoire personnelle. Vous dites « moi je » et vous écrivez « enfant, j'ai cherché à lire sur ce pays, je n'ai rien trouvé. Je ne trouvais rien à apprendre du territoire d'où je venais. »
C'est vrai. Ayant grandi en Picardie, surtout à partir de 67, bon, comme toute famille venant du territoire algérien et liée à cette histoire et aussi à la guerre, parce que mon père avait été mis en prison, j'irai après pourquoi, on a d'abord traversé le sud de la France, on y restait un petit peu, puis ensuite on s'est installé en Picardie. Et il est vrai que quand on grandit dans ces territoires, la France, c'est qu'on vient de l'Algérie, on ne fait pas vraiment partie du récit national, donc on ne trouve rien concernant la raison pour laquelle votre famille est là.
Vous arrivez en 1967, donc en Picardie, avec vos frères, vos sœurs, votre maman et votre papa. Et vous venez de nous dire que votre papa, lui, sort de prison en 67. La guerre d'Algérie est terminée depuis 62. Pour quelles raisons a-t-il été incarcéré ?
En fait, mon père, c'est quelqu'un qui s'est suicidé en 1991. Et en fait, je pense que c'est son suicide qui m'a guidé vers la compréhension de ce pourquoi il a été mis en prison. Alors, on l'a mis en prison, je pense, pour deux raisons. D'abord, parce que il travaillait dans l'administration française. En tous les cas, il était vice-président du Conseil général à l'époque. Je pense qu'on l'a mis aussi en prison parce qu'il avait des biens. Je pense qu'on l'a mis en prison parce qu'il n'était pas, peut-être, nécessairement un proche du FLN. Ou peut-être on l'a mis en prison pour lui sauver la vie. Hein, parce qu'il y a de multiples raisons pour lesquelles les gens étaient mis en prison. Il s'avère qu'en fait, il a fait quatre prisons différentes et qu'en 67, il a été un peu un chef de convoi. Il est arrivé ici à Marseille avec 42 familles. Il était très maigre. Hein. Il a séjourné dans un camp dans le sud de l'Algérie qui était aussi très dur, je pense. Et à mon avis, le fait qu'il ait été un propriétaire terrien a joué dans le séquestre qu'il a vécu. Bon, si ce n'est qu'arrivé en France, en 67, il a dû faire une demande de reconnaissance de nationalité, comme s'il avait abandonné sa nationalité. La France n'ayant pas reconnu ses 5 années de prison comme étant des années de prison relevant de la guerre, donc plus tard, il a demandé à avoir un statut de prisonnier de guerre, qu'il n'a jamais eu. Mais en échange de ce statut de prisonnier de guerre, on a quand même pensé qu'il fallait le dédommager. Et là, on lui a fait, à la caserne Bernadotte, en 1973, des faux papiers militaires. Que dire de deux choses? D'abord, vous grandissez avec l'idée que votre père est quelqu'un qui a quitté le territoire parce qu'il l'a trahi. Et que veut dire ensuite le fait que vous découvrez que l'histoire, c'est que de la falsification? Donc, vous avez d'une certaine manière acquis un certain scepticisme quant à la question de l'histoire et des documents. Alors, la carte à l'origine, c'est d'abord un dessin. Ici, vous avez donc
ce qu'on appelle un portulan, mais qui est volontairement posé dans l'entrée de l'exposition, d'abord pour rappeler quand même que c'est des objets qui étaient évalués comme des œuvres d'art, hein, sont des objets qui ont des valeurs, je dirais aujourd'hui, inestimables, ne serait-ce que pour l'information que ces portulans détenaient concernant ce qu'on appelle les littoraux, c'est-à-dire le nom des villes qui bordent ces territoires, et puis aussi qu'est-ce qu'on y inscrit comme, je dirais, état politique du monde. Hein. Donc là, vous êtes à un moment qui n'est plus du tout le XVIe siècle, mais bien le XVIIe, à partir de la, ce qu'on a appelé en fait la grande reconquista espagnole et la prise de Grenade qui va de pair en 1492 avec la découverte des Amériques. On ne sait pas encore que c'est la découverte d'un nouveau continent, mais on se pense riche d'espaces importants. Se met en place en fait un rapport très très belliqueux, une belligérance très très forte de plus en plus. Elle existait un peu avec l'Empire ottoman du côté de l'Adriatique, mais là, en Méditerranée, un conflit très important entre ce qu'on pourrait appeler le monde chrétien et le monde ottoman. Et en fait, ce type de carte dessine cela. Là, vous voyez inscrit « Barbarie hein. ». Autrefois, vous pouviez y lire « Numidie » ou « Maurétanie ». Voilà.
Alors, lorsque vous êtes petite, Zahir Hamani, vous cherchez à comprendre de quel pays vous venez, vous cherchez à lire des livres sur l'Algérie, vous n'en trouvez pas en France. Vous avez cette histoire de votre papa, de ce père supplétif, qu'il vous faudra peut-être toute une vie à réellement comprendre. Et puis, vous avez votre maman et vous écrivez « Ma mère comprenait les ravages de cette tristesse sourde qu'est la perte à jamais du pays de l'enfance. » Et là, encore une fois, c'est une question de territoire, de ce territoire algérien. Comment votre maman, elle vous le transmet, ce territoire ?
Ben, c'est vrai qu'on a, d'une certaine manière, dû faire une croix sur notre enfance tout en faisant une croix sur le pays de notre enfance. Et elle nous le transmet par deux choses, à mon avis, la langue. Il a fallu qu'elle me parle dans une langue. Donc c'était sa langue, la langue maternelle qui est devenue cette langue pour moi. Donc pour elle, le berbère. De toute façon, ça, c'était au quotidien, mais à l'intérieur de cette langue, il faut y mettre des mots. Et donc, elle m'a transmis, en fait, le bonheur qu'elle a eu de vivre dans ce pays et la mémoire à jamais vive et joyeuse qu'elle avait, elle, de son enfance. Et c'est vrai qu'elle a transmis cela.
Et qu'elle avait reçu, et c'est une tradition orale, c'est une histoire, du coup, qui se raconte, qui se transmet, et c'est tout un monde, un territoire de réserve, c'est comme ça que vous l'appelez, un monde un peu magique, où ce n'est pas seulement la description d'un territoire, mais c'est aussi les hommes qui y vivent, les animaux qui y sont, la nature qui l'enchante. Donc ce sont des récits d'enfance de votre mère sur votre territoire.
L'Algérie était une immense fable, mais tant mieux, parce qu'elle, elle avait besoin de nous mettre à un endroit où il était possible de vivre ce pays comme un conte. Et il a, je pense, une charge poétique encore en moi, parce que nos mères, qui n'avaient pas d'ouvrages et de livres à nous transmettre, elles avaient une sorte de bibliothèque propre, qui est une mémoire extraordinairement malléable et flexible, parce qu'en fait, c'est quoi une culture orale ? C'est d'abord, avant tout, des multiples cases que vous remplissez de récits et que vous faites coexister, oui.
Je vous invite à me suivre. Alors vous avez ici une petite chose, bon, qui est pas, on aurait peut-être pu la mettre un peu plus au centre, mais à laquelle on était très attaché. Exploration scientifique de l'Algérie, sciences physiques, botaniques. Le seul grand botaniste qui a travaillé en Algérie au 18e, Desfontaines, il est passé en Algérie par la Tunisie. Et il va aller en Algérie pour essayer de penser, trouver des espaces qu'il peut acclimater en France. Le point de vue est très différent de ce qui se passe au 19e. On essaye de vérifier comment dans ce territoire certaines plantes pourraient servir à régénérer en fait certains territoires du sud de la France suite à certaines maladies concernant les arbres et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, on n'a aucun ouvrage dédié à la botanique ou à la flore à la fin du 18e, 19e siècle. Ce territoire d'en face, c'est un territoire qui sait très très bien se préserver aussi de la pénétration de ce qu'on appelle la savanterie européenne, c'est-à-dire qu'il y a un barrage qui s'effectue réellement. Il faut avoir des lettres pour pouvoir circuler dans le territoire quand on est étranger. Mais surtout, ce qui est très intéressant à vérifier et à penser, c'est d'essayer de réfléchir à pourquoi, en fait, ce type de pratique coloniale, en fait, qui s'est effectuée partout, ne s'est pas effectuée en Algérie au XVIIIe, ça s'est effectué qu'à partir de 1830.
Alors, l'absence d'informations sur l'Algérie, sur ce territoire où vous êtes né, Zahir Hamani, mais sur lequel vous n'arrivez pas à trouver d'informations, avec l'histoire de ce papa qui est violente, qui est compliquée, et puis aussi avec cette maman qui vous raconte une histoire merveilleuse, finalement, vous allez devenir, à votre façon, une chercheuse, et vous qui avez reçu de l'oralité, vous allez vous mettre à écrire, et aujourd'hui, donc, à organiser cette exposition. Nous sommes ici à Marseille, au MUSEM, au milieu de cette exposition, en face de nous, la mer, et de l'autre côté, la baie d'Alger, et cette ville, et ces deux villes, en regard, en mémoire croisée, pour essayer de raconter cette histoire, en fait, qui est une histoire coloniale. Alors, ce récit, certes fabuleux, de ce territoire algérien, tel que vous pouvez l'imaginer enfant, c'est aussi un récit d'une violence extrême, et j'aimerais qu'on commence par l'histoire de la conquête, dont les cartes atteste l'avancée au fur et à mesure que l'on découvre votre exposition ici à Marseille.
Moi, mon histoire familiale m'a toujours fait comprendre que l'Algérie, c'était une histoire de cadastre. Je l'ai toujours su. Et vraiment, un jour, j'avais même dit à un ami, j'ai toujours des cadastres dans la tête. Mais vraiment, je l'ai toujours su par l'histoire de mes grands-parents, j'ai toujours su par un certain nombre de récits que m'ont raconté des familles de rapatriés, c'est-à-dire le fait que ce qui s'est joué après 62 sur les terres s'est joué en 1830 sur les terres. Bon, après, il me semble que je n'avais pas nécessairement un désir de travailler sur l'Algérie. Pendant 30 ans, j'ai fait autre chose, vraiment. Mais il était évident que rien de ce qu'on nomme, ce sur quoi on bute en France autour de la question coloniale, n'est appréhendé avec des moyens suffisamment précis et aguerris pour nous permettre de faire une avancée un peu sur cette question coloniale.
Et d'ailleurs, le fait même d'ouvrir une exposition Made in Algeria, c'est un événement du point de vue historique.
Alors, d'abord, une exposition majeure dans un lieu majeur sur un espace comme celui-ci qui accueille l'équivalent de plus de 1000 personnes par jour, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on aborde la question coloniale sous cet angle-là aussi, et avec des objets qui sont d'une très grande qualité esthétique et d'une grande valeur patrimoniale, et le concours de grandes institutions comme le Château de Versailles, le Centre historique de la Défense, les Archives nationales de l'Outre-mer, les Archives diplomatiques de la Courneuve, et puis bien sûr les collections de la Bibliothèque nationale de France. Donc des institutions de très grande qualité qui ont des réserves patrimoniales inouïes et qui ont vu aussi tout l'intérêt qu'il y avait à enfin sortir de leurs réserves de tels objets, hein, qui sont en fait des objets qui montrent, qui illustrent comment le territoire algérien a été dessiné, peint, saisi, arrêté d'une certaine manière et comment il a été produit aussi, c'est-à-dire dans un intérêt précis, hein, qui était celui de la conquête.
Et l'on découvre, Zahir Hamani, dès le début de votre exposition, à quel point cette conquête était violente, et ça c'est sans doute une première découverte pour le public.
Alors, il y a un parti pris dans l'exposition qui est de considérer que la carte, c'est un fait objectif. Mais on peut pas dire que il y a dans l'exposition une violence frontale, au sens où on verrait à n'en plus finir, des morts. Non, elle est sous-jacente, elle est dessous, c'est un sous-texte en fait. Elle est dans tout simplement le fait de tracer sur un territoire le chemin qu'on emprunte, et que ce tracé du territoire devient plus que le chemin qu'on emprunte, sa propriété. En fait, c'est ce qui va s'avérer être finalement le but ultime de ce travail. Voilà. L'Algérie va être un territoire un peu très spécifique pour l'invention cartographique. Jamais les cartographes ne s'étaient imaginés dans un espace aussi grand. On est passé d'une échelle temps à une échelle 5 fois plus grande que le territoire français. Et donc, il a fallu inventer des outils. La courbe de niveau n'existe pas.
On appelle ça la palette d'ombre, mais chacun utilise sa palette d'ombre comme il veut. Et la courbe de niveau, en fait, elle va être inventée au 19e siècle. Et il a fallu aussi inventer ce qu'on appelle une typologie, une sémiologie surtout. Une sémiologie, alors c'est par exemple toutes les petites icônes qui vont être inventées définitivement pour dire tel type de bâtiment. Voilà. Mais on est dans une invention totale. Ce qui est dur pour nous à intégrer, moi je le vois, vous allez voir quand vous êtes dans ce moment de l'Algérie, c'est qu'en fait, je ne sais plus si c'est la carte qui fait le territoire ou si le territoire a vraiment existé. C'est incroyable, sur l'Algérie, surtout là, on finit par se dire, mais c'est vrai que c'est un mirage. Quoi. Est-ce que c'est pas parce que la carte existe d'une certaine manière que la colonisation s'effectue? Parce que, étonnamment, il y a des cartes faites par l'État français au 19e et qui te montrent donc un immense territoire avec, vous le verrez, jamais le sud n'est délimité. L'Algérie n'a pas de frontière au sud et c'est des départements français. Ça va durer très longtemps. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Français ont un territoire avec 3 départements, mais il n'y a pas de frontière. C'est étonnant du point de vue de la projection, mais de ce que ça fait à un corps social français de se dire que, en fait, l'espace, il n'a pas de limite en bas. Et c'est des documents qui étaient dans toutes les écoles. Bon, voilà, c'est... Et donc, inventer un territoire, oui, c'est par exemple, on va le voir dans quelques minutes, hein, la question des espaces blancs. C'est-à-dire que si vous colorez un territoire parce que vous le connaissez et que vous laissez un espace blanc, ça veut dire espace inconnu. Ça veut dire espace vierge. Ça veut dire espace vide. Mais il y a des choses dans cet espace. Mais vous le recouvrez avec votre savoir. Voilà. Et c'est les populations en fait locales qui elles-mêmes, n'ayant pas la maîtrise de ce savoir, n'ont plus la maîtrise de leur territoire. Quand tu n'as pas la maîtrise cartographique, tu n'as plus la maîtrise de ton territoire. Mais ça, c'est évident. Voilà. On avance.
Zahia Rahmani, cette Algérie de 1830, cette Algérie que conquièrent les Français, à quoi elle pouvait ressembler? Vous écrivez dans le catalogue que les Algériens savent lire et écrire. Et pourtant, l'histoire française, c'est l'histoire, notamment celle de l'Empire français, c'est l'histoire de la mission civilisatrice de la France.
On recense collège et lycée. Le pair de France, député qui a comme rôle de faire le rapport sur cette question, recense les collèges et les lycées qui sont présents à l'intérieur de la ville, de la Régence, mais il dit que dans chaque village, tous les hommes savent lire et écrire.
On est très surpris.
Mais je sais. Mais comme on est très très surpris toujours de devoir penser que il n'y avait avant l'arrivée de la France strictement rien. Non, ce que fait la France, c'est tout simplement d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'elle va réellement détruire toute l'infrastructure juridico-culturelle des populations locales. Et évidemment, ça va créer un désagrément et aussi une disjonction. Quelque chose dont on se remettra jamais, en fait. C'est un peu comme la violence qui a été faite aux Africains, en général. C'est-à-dire, vous avez des sociétés qui sont organisées, qui sont des modèles qui ont pris sur des années, des décennies. Et là, vous mettez un coup, comme dans un bowling, à l'intérieur de cela, vous faites tout simplement exploser tout le système et vous finissez par laisser croire que fondamentalement, il n'y a pas de savoir, pas de... Alors, il est clair qu'à partir du moment où les gens lisent et écrivent en langue arabe, par exemple, la personne qui arrive et qui débarque ne peut pas concevoir que c'est une écriture ou une pensée puisqu'il la maîtrise pas. Voilà.
Et vous parlez, Zahia Rahmani, de la défiance du peuple algérien qui serait né à ce moment-là, à ce moment matriciel de la relation entre l'Algérie et la France.
Il est dit partout dans les rapports que c'est un pays de cocagne. Il est dit partout dans les rapports que les gens ont un territoire très très grand, très vaste, dans lequel ils peuvent facilement produire une autosuffisance alimentaire, ça c'est évident, mais aussi il est raconté une certaine qualité de vie, jouissance de la vie. Bon, la question de la mission civilisatrice, c'est très simple. Il faut juste se poser la question de, voilà, 1914, combien d'enfants algériens, c'est-à-dire 90% de la population normalement de ce territoire, est-elle, cette population, inscrite dans une école laïque? Alors on vous dira, non, les Algériens ne voulaient pas mettre leurs enfants dans les écoles. Non, mais ils voulaient pas mettre leurs fils, c'est des musulmans. Mais la vraie question, c'est pour quelle raison, par exemple, n'a jamais pensé le bilinguisme? De quel droit une minorité peut imposer à ce point la majorité son modèle culturel à soi? Moi, je suis très étonné. Pourquoi on n'a pas demandé aux petits Français d'apprendre aussi l'arabe?
Made in Algeria, c'est à Marseille au Mucem avec Zahia Rahmani. Retrouvez-nous juste après les infos pour la suite de l'expo sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde à Marseille, au Mucem, avec Zahia Rahmani, co-commissaire de l'exposition Made in Algeria. À travers la cartographie et les peintures produites par l'armée française après son débarquement à Sidi Ferruche, c'est toute l'histoire de la conquête coloniale de l'Algérie qui nous est racontée.
On va aller un peu plus vite maintenant. Vous avez vu comme c'est très beau, hein, ces cartes qui sont enfin, voilà, qui montrent à la fois la baie. Alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Jazayir, ça veut tout simplement dire les îles, parce que la ville d'Alger est bâtie en fait à l'entrée d'une baie très importante où vous avez un grand nombre de rochers. Certainement que ça a joué dans l'histoire de cette ville, ces rochers, à la fois du côté de la piraterie ou aussi de la nécessité de pouvoir finalement y amarrer les bateaux. Mais aussi pour pouvoir construire sur cette zone de falaise une ville, qui fait que la conquérir et débarquer est très difficile. Et donc ces rochers, longtemps, vont ne pas avoir de lien qui la relie à la ville. Hein. C'est Charles Quint qui va construire ce qu'on appelle un ponant sur un des rochers, une petite tour dans laquelle il va pouvoir en fait mettre ses défenses et faire amarrer ses bateaux pour pouvoir attaquer la ville. Et plus tard, les Turcs vont construire la digue qui va façonner le paysage de la ville et qui fera qu'il y aura ce petit port. Voilà. Mais tout autour d'Alger, hein, ici, ce sont des rochers. Et donc, le Zazalé, ça veut dire les îles. Et la ville, en fait, porte ce nom qui sera aussi le nom du pays. Voilà. Alors, une chose importante aussi, là, on voit, par exemple, plan de défense de la ville d'Alger attaquée en 1784 par la flotte combinée des Espagnols, Portugais, des Napolitains et des Maltais. Mais ça, c'est très régulier, hein. Il y a ce qu'on peut appeler des flottes combinées. Donc souvent, l'argument, c'est de dire que c'est au nom du christianisme ou au nom d'autre chose. Mais c'est avant tout, les enjeux, ce sont des enjeux de type commerciaux. Il y a aussi que tout le monde veut prendre cette région parce que c'est un point stratégique vers l'Afrique. C'est un des endroits, en fait,
Made in Algeria, c'est le nom de l'exposition que vous proposez ici à Marseille, au Mucem, Zahia Rahmani. Alors, Made in Algeria, c'est une façon d'estampiller ce qui vient d'Algérie au moment de l'Empire français, au moment où l'Algérie, c'est 3 départements français. Made in Algeria, comment on le définit ?
On le définit comme l'idée que l'Algérie a été une fabrique de la modernité. Alors, de la modernité française, de la modernité européenne, elle a été aussi un lieu dans lequel on s'est projeté sur le modèle du plan libre, hein, ne serait-ce que la construction des villes européennes telles qu'elles ont été instruites en Algérie au 19e, comment un grand nombre d'architectes se sont aussi projetés dans ces territoires, toujours sur le modèle du plan libre, c'est-à-dire, en gros, on pouvait inventer les circulations, les modalités de fonctionnement dans les immeubles. Évidemment, en général, on hérite plutôt d'une pratique de l'espace. Là, on décide d'un modèle de pratique de l'espace et libre ou pas aux sociétés locales de pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces schémas. La deuxième chose, c'est aussi une immense fabrique de ce qu'on pourrait appeler du bidouillage administratif et juridique concernant l'individu et la notion de citoyenneté et de nationalité française. L'Algérie était un immense laboratoire concernant ce qu'on nommerait aujourd'hui la question de la citoyenneté, de l'identité française, et ça continue d'ailleurs, hein. Ça a été une école de ce point de vue-là, puisqu'on s'est retrouvé avec un pays qui était un département dans lequel des individus se retrouvaient, en fonction de l'endroit où ils habitaient, sous des ordres juridiques variés.
Belle et généreuse terre d'Algérie, elle a créé dans ses 40 dernières années un jardin magnifique auquel la vieille Europe fait appel pour pouvoir consommer des produits de choix. Ses plantations d'artichauts rivalisent avec celles de Bretagne et de Provence et en dépassent la production en qualité.
Voilà. Ça a été aussi un laboratoire agricole immense, hein. C'est un pays qui a été entièrement retourné et dans lequel on a ça étonne toujours quand je dis que l'eucalyptus est une importation et que
l'arbre.
Que ce n'est pas une plante locale mais venue d'Australie même. C'est un pays qui a été entièrement retourné, c'est un pays où on a déboisé en quantité, c'est un pays où on a détruit une grande partie de la faune et c'est un pays où on a planté mais pour des raisons qui étaient liées à la nécessité de produire une agriculture d'exportation et qui d'ailleurs a maintenu la population algérienne dans cette figure du flard, de l'homme paysan aux mains calleuses, au service en fait de la denrée alimentaire nécessaire aux Européens.
C'est que tout a changé sur cette terre où voici moins de 100 ans des marécages s'étendaient un peu partout, couvrant des milliers d'hectares de terrain, faisant régner en permanence le paludisme et les épidémies génératrices d'une effrayante mortalité. L'Algérie, pouvait-on penser, devait rester en grande partie inculte et sauvage. Aujourd'hui, aux endroits où s'étendaient autrefois ces espaces stériles et malsains, s'étendent les vastes cultures qui font de l'Algérie une terre bénie, bienveillante aux hommes.
De façon générale, lorsque l'on traverse l'exposition et que l'on découvre cette conquête par les Français du territoire algérien, on a le sentiment d'un territoire immense, mais aussi d'un territoire vide. Pourquoi ?
Alors ça, c'est l'enjeu majeur de la colonisation, c'est de pouvoir la justifier avec l'outil démographique. Il fallait difficilement annoncer que le pays des droits de l'homme puisse contraindre une population et un peuple à un modèle culturel qui était le sien. Donc, le grand mirage, ça a été de dire, c'est un pays vide, il n'y a personne. Personne ne vit dans ce territoire. Et puis en plus, c'est immense. Et puis leur manière de vivre est relâchée, elle n'est pas organisée. Et puis petit à petit, on va instruire aussi une idée extraordinaire qui est le système des tribus et la manière dont on va faire intégrer dans l'esprit des individus qu'en fait, leur modèle est un modèle relâché de gouvernance, hein, c'est-à-dire une multitude qui ne peut pas se gouverner elle-même.
Voilà. Et là, vous avez une carte absolument extraordinaire.
La carte des tribus de Carré Tévernier.
La carte des tribus, parce que ce sont des cartes donc où l'on dessine, on dessine une géographie. Ce sont des cartes aussi qui racontent des histoires. On écrit sur les cartes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui.
Oui, on ne voit plus.
Racontez-nous ça pour les auditeurs.
Ce sont en fait, c'est une carte, par exemple, qui est truffée, mais par des milliers de références dénoncées sur les populations. Mais la carte de Carré Tévernier, elle est intéressante pour deux raisons. D'abord parce que elle montre une folie de la science, une vraie folie. C'est-à-dire que on arrive à remplir ce territoire de multitudes de communautés. Et d'abord, on densifie du coup sa population quelque part. On la densifie, mais on montre que c'est confus. En montrant que c'est confus, on fabrique aussi une société qu'on primitivise d'une certaine manière. Alors que la France est en train de vivre, elle, une sortie du modèle ethnographique. On va de moins en moins se soucier de l'altérité, de la diversité des populations. Bien au contraire, la nation, l'État-nation est unie, est un modèle culturel unique. Il n'y a qu'une langue. On sait comment les Bretons vont payer très très cher. Et du coup, on peut projeter ailleurs cette ethnographie nouvelle qui, en fait, fait de la population algérienne une population tribalisée. Se superposant le nom des confréries, les Ramanias, beaucoup de confréries, et se superposent à ces confréries les caïdas, les modèles juridiques avec les Ouled Naïl. Il y a toutes les communautés qui sont recensées sous cet angle-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ça va servir quand même les Algériens, et ça dit quand même, le maintien de quelque chose qui serait du côté de la culture locale, en défiance à l'autorité. Voilà. Alors, deux choses importantes ici, qui me tiennent à cœur beaucoup, Jean-Yves et moi, c'est la première carte qui a été effectuée par l'armée française sur le territoire algérien à partir du 14 juin jusqu'au 17 juin 1830. Donc là, Sidi Ferruge, pour vous donner une idée, vous avez ici la ville d'Alger, ça se situe beaucoup plus à l'ouest, hein. Vous avez une carte ici qui retrace en fait l'expédition telle qu'elle a été préparée pour la faire. Là, vous avez un document qui date de mai 1830, le débarquement a lieu en juin. Et vous voyez, ça s'appelle Théâtre de la guerre. Et le Théâtre de la guerre, au moment où ils partent avec cette carte, les militaires, il va du Maroc à la Tunisie. Hein. Donc, on a une armada et on décide d'aller en face. Donc là, on a la carte du tracé en fait que les militaires français vont emprunter pour arriver jusqu'à Alger. Alors on devine par le tableau de Gudin cette partie-là du territoire qui montre l'arrivée des militaires français par terre et le bombardement de la ville par mer. Donc en gros, sont déposés à peu près 32 000 soldats, Sidi Ferruge, et 28 000 sont dans les bateaux. Et là, vous avez en face de vous l'état de la ville telle qu'elle était avant son bombardement. Alors, le tableau de Gudin, il est aussi rare pour des choses très particulières. Vous avez là le corps d'une femme et son enfant qui... Alors sachez que la plupart des peintures que vous allez voir...
Ce que l'on comprend tout au long de l'exposition que vous proposez ici au Mucem à Marseille, Zahir Hamani, face à Alger qui est là de l'autre côté de la mer Méditerranée, c'est que toutes les cartes que nous découvrons ici... Tous les tableaux également, qui étaient des photos de l'époque en quelque sorte, que nous découvrons ici, elles sont toutes produites dans le cadre militaire. Et ça, c'est extrêmement important aussi.
Alors, il faut dire que l'expo, quand on parle de cartes, les deux tiers de ce qu'on voit au début, c'est d'abord des aquarelles, en fait. C'est quoi? C'est Alger tel que c'est dessiné et peint, et c'est une carte. Mais la carte, au départ, c'est un dessin. C'est un très beau dessin de la ville, les tableaux sont des peintures, et il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, ce sont les affiches. Ce sont des affiches aussi placardées dans les rues de Paris et les rues de France. Il y a quelque chose de magnifique et beau dans ce qu'on perçoit, c'est la manière dont les militaires sont subjugués par le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont eux-mêmes pris dans l'immensité de ce territoire, ils sont à l'intérieur, et on voit très bien à quel point l'illustration de l'événement militaire qu'ils sont censés faire par la peinture est lui-même parfois renversée par la sensation du paysage. Voilà. Et ça, même moi qui travaille sur cette exposition depuis très longtemps, je reste encore fasciné par ces peintures. Je suis dedans et je me dis, mais c'est fou quoi, que ce paysage-là ait pu produire une telle sensation.
Un paysage immense, mais dans lequel, même si ce territoire est présenté souvent comme vide hein, et justifiant justement qu'on le conquiert, c'est un territoire, un paysage aussi, où de temps en temps apparaissent quand même quelques indigènes, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, et je pense notamment à cette peinture de bataille, parce que ce sont des faits guerriers hein, qui sont rapportés très souvent par ces toiles, où l'on voit tout de même le corps d'une femme inerte, donc sans doute morte, qui est au centre du tableau.
Ça, donc, c'est très beau.
Et c'est sans doute très rare aussi.
C'est très rare, c'est très beau. C'est le tableau de Gudin, c'est le premier grand tableau de l'exposition, qui est un tableau unique en son genre, parce qu'il montre à la fois l'arrivée des militaires français par terre et le bombardement de la ville d'Alger. Et au cœur, au centre, il y a une petite figure au centre, là au milieu, qui est le corps d'une femme qui a été tuée avec son enfant, qui essaye de l'éveiller, elle est morte. À côté aussi d'une tente, un bivouac, duquel s'échappe une lumière rouge et qui dit un égorgement, c'est baigné de sang. Et cette femme, c'est vrai qu'elle dit quelque chose de très 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 juste, elle dit la population. Et ça, de la part de Gudin, c'est un petit geste anodin, mais très fort, puisque finalement, quand on la voit, on finit par penser qu'à elle, quoi. Et alors que c'est censé illustrer un corps à corps entre soldats, il y a des soldats français et une population qui tente, mais elle peut pas, elle ne résistera pas. Mais personne ne peut résister à une armada pareille, ils étaient pas du tout préparés. Et personne, d'une certaine manière, n'avait pu imaginer une telle violence de la part de la France.
Cette violence à l'égard des civils, c'est aussi la violence à l'égard de l'architecture du territoire, notamment de la ville d'Alger. Vous présentez une maquette absolument extraordinaire où l'on découvre la Casbah telle qu'elle était avant d'être détruite.
La ville d'Alger. Parce qu'on dit Casbah, mais en fait, non, c'est la ville d'Alger.
Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se promène à Alger et qu'on nous dit « je vais te montrer la Casbah », ce ne sont plus que quelques ruelles, que quelques maisons.
C'est strictement plus rien. C'est strictement plus rien. D'ailleurs, une grosse partie de la ville d'Alger, aujourd'hui, ce qu'était la ville du temps de la Régence, bah, ça a été construit dessus. C'était très important que cette maquette soit montrée pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a tendance à dire, et tant mieux, pourquoi pas, hein, que la ville d'Alger est très belle. Mais je pense que c'était la moindre des choses de faire une ville belle au regard de ce qu'était la beauté de cette ville qui est entièrement détruite, et des milliers de jardins qu'il y avait autour, et des palais qu'il y avait autour.
Alors la ville d'Alger en 1830, parlons-en, on a cette maquette ici qui nous la montre, c'est d'une densité incroyable.
Oui, c'est une ville très organique. En fait, c'est une ville qui sert au commerce, c'est une ville qui sert à la vie urbaine, réellement. D'ailleurs, tous ceux qui racontent leur vie à l'intérieur de cette ville, bah, ils vous disent qu'il y a des dizaines et des dizaines de cafés. C'est une ville qui a une intensité culturelle très importante. C'est-à-dire que tous ceux qui sont passés à l'intérieur de cette ville, qui ont séjourné, qui ont passé du temps, vous disent grosso modo que les rues sont très étroites, que un mulet chargé peut à peine circuler. La plupart des habitats à l'intérieur sont décorés de très très belles boiseries, très belle architecture, très belle cour intérieure. Il y a beaucoup de jardins à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des maisons. Mais comme toutes ces architectures qui sont aussi un mélange d'héritage ottoman et local, hein, elles sont très organiques, c'est-à-dire que les murs sont collés quasiment dos à dos avec des systèmes de trois terrasses qui font que celui qui est en hauteur hauteur ne voit pas celui qui est dessous et vice-versa. C'est pour ça qu'on dit que c'est organique. Mais à partir du moment où vous défaites un certain nombre de murs, la ville s'effondre. Parce que c'est un système de puzzle, ça fonctionnait comme ça, elle est très belle, il y avait beaucoup de palais, un grand nombre aussi de lieux de prière, synagogues, mosquées, églises. Tout cela a été complètement détruit en 3 ans. La violence est telle que on pense que c'est irréparable.
Au milieu de la pièce, vous avez une carte importante quand même, parce que ça dit beaucoup de choses sur notre histoire en France avec cette question du territoire algérien. Je vous ai dit que on a des peintures très importantes qui nous viennent du château de Versailles. Le château de Versailles, aujourd'hui, à des espaces qu'on appelait historiquement les salles d'Afrique, mais que vous ne pouvez plus voir parce que, en fait, pour des raisons qui sont liées aussi à une certaine gêne, une certaine honte de cette histoire coloniale, les salles d'Afrique ayant été voulues par Louis-Philippe, et ensuite elles seront aussi très chargées par Napoléon III, mais surtout Louis-Philippe, elles étaient là pour illustrer les faits de guerre très conséquents et importants de l'histoire française. Alors je vous dis ça par rapport à cette séquence qu'on va voir ici. Vous avez là un, deux et plus tard un troisième tableau, qui en fait sont des tableaux qui ont été intégrés aux salles d'Afrique du château de Versailles et qui ensuite ont été retirés pour en mettre d'autres. C'est pour ça que ces tableaux n'ont pas de cadre et qu'ils ont aussi cet effet moderne très conséquent. Maintenant, je vais revenir sur cette salle d'Afrique. Vous avez tous peut-être entendu parler, ou vous entendrez parler un jour, par exemple, de la Smala d'Abdelkader et de la prise de la Smala par Horace Vernet. C'est un tableau qui fait 70 mètres de long, mais qui est masqué aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que au départ, dans les salles d'Afrique du château de Versailles, on a mis des cimaises temporaires. Et puis, au fur et à mesure du temps, ces cimaises sont devenues des cimaises fixes. Derrière ces cimaises, cet immense espace où vous allez voir les expos, il y a tous les fantômes de cette histoire, derrière les murs.
Yeah, في جبل اللوح قامرة تبكي وتنوح في جبل اللوح قاميرة تبكي وتنوح قلبها مجروح يما العزيزة راح تلك قلبها مجروح يما العزيزة راح تلك.
La marche du monde est à Marseille, au MUCEM, dans l'exposition Made in Algeria, où nous entendons les voix des Chibani, ces femmes et ces hommes venus d'Algérie pour travailler en France. La mémoire de leur territoire est questionnée par les élèves du collège Edgar Quinet.
Comment décririez-vous le territoire algérien ?
Béra, quatre fois de la France. Il y a de la montagne, il y a la mer, il y a tout. Il y a le désert, il y a
tout. Il est beau.
Il y a des pétroles, il y a des gaz, il y a tout.
Il est gras, il y a fait l'autoroute. L'autoroute Algérie-Argentine. Il y en a des écoles, il y en a Macria.
Cinq fois comme la France.
Macria. Il y a des mosquées aussi.
Le métro, il y a tout.
Les oulades, les gens, en France, ils parlent tout le monde.
Notre pays est mieux que chez. C'est des jolies maisons. Franchement, à Alger, c'est pas Marseille.
On dirait que nous sommes à Ouran.
C'est le même corniche.
Oui, où j'habite à Annabelle ressemble même. C'est pareil comme Marseille.
C'est bien ici, mais Alger, là-bas, c'est mieux. Parce que les enfants, ils sont là-bas. Les parents, ils sont là-bas. Mes amis, ils sont là-bas. Tout, ils sont là-bas. C'est bon payé, hein ? Obligé.
Zahia Rahmani, en 1981, vous avez 18 ans et vous faites votre premier voyage en Algérie. C'est quoi le souvenir, l'image de votre premier paysage ?
Alors, j'ai pas prêté attention à Alger à l'époque. Mais j'ai été en Kabylie, j'étais pressée d'aller en Kabylie, d'où venait ma famille. En plus, ils viennent d'une région très belle, bord de mer, Tixir-Turmer, où il y a en plus une île. Et un magnifique, magnifique, magnifique temple basilique romaine, bon, qui est toujours là. Donc moi, j'arrive à Tixirt, c'est simple, je pleure. Voilà, je pleure. Mais ça, j'ai ça en Afrique tout le temps. Moi, vous me mettez au Sénégal, je sais que je suis de ce pays. Donc voilà, je me sens de ce pays, en fait. Et en fait, je me sens de ce pays, je me sens pas de ce pays. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi en France Et en 81, ma mobilité dans l'espace urbain et dans le village n'était pas évidente. Même si ma famille était très gentille, mais aller à la mer, me baignant en maillot de bain, n'était pas chose facile. J'ai retrouvé des cousins de mon âge avec qui je pouvais un peu avoir de la mobilité, mais j'avais une tristesse immense. J'avais le sentiment qu'en fait, le temps s'était arrêté dans ce pays. Il manquait tout. Et dans le même temps, je raconte, ce moment où on veut se faire un bain de minuit et on veut profiter de la mer, quoi, et du soleil, comme n'importe qui, et on est ramassé par la police. Et là, on voit très très bien qu'il y a quelque chose qui s'appellerait une liberté qui n'a jamais été atteinte. Alors, donc c'est à la fois un immense moment sensible et d'émotion, et là, je comprends que ce pays qui a été mon pays de réserve, mais vraiment, ne le sera plus jamais. Et même si après coup, avec l'ère Sarkozy, ça a un peu changé dans ma tête, mais je reviens en France en me disant, j'ai pas le choix, je dois vivre en France.
Voilà. Pourquoi ça a un peu changé dans votre tête avec l'ère Sarkozy ?
Parce que Sarkozy, c'est vraiment quelqu'un qui a fabriqué en nous, nous qui sommes issus de ces territoires, une précarité psychologique qui, à mon avis, ne pourra plus partir. Parce que ce qu'il a embrayé, Manuel Valls le perpétue, et on a distillé en nous une intranquillité, une peur d'être à jamais mis dehors. Et maintenant, en plus, avec cette question de binationalité, dont on est, nous, pas fautifs, dont on hérite, en fait, par l'histoire, ferait, en plus de nous, des gens déloyaux. Bon. Et tout ça, en fait, vous blesse, vous attriste, et au fond de vous-même, vous vous dites, bon, voilà, il faut envisager qu'un jour, on vous dise, vous partez. Voilà. Alors, ça ne se fait pas en un jour, mais vous voyez, en fait, comment petit à petit, en France, s'inscrit votre exclusion de la société. Même si vous participez, vous, d'un refus catégorique d'un communautarisme qui s'exerce de partout et qui vous amènera finalement à devoir partir. Voilà. Donc c'est quelque chose de sourd, mais qui est très présent maintenant dans la société française.
Et en même temps, rompre une forme de silence historique en proposant cette exposition Made in Algeria, est-ce que ça peut participer justement à faire en sorte que, quelles que soient nos origines, les uns et les autres, on puisse être dans ce vivre ensemble, une expression tellement galvaudée, mais qui là peut-être aujourd'hui au MUCEM prend tout son sens.
Je suis d'accord avec vous. Au contraire, je pense qu'avancer de cette manière-là, c'est une tentative finalement de se frayer une autre voie. Mais on n'est pas beaucoup, on est un peu seul, on n'est pas sûr d'être aidé par les différents États. L'Algérie opte parfois plutôt pour le statu quo, et donc c'est difficile. Mais moi, je n'ai pas d'autre choix que de bâtir un avenir qui soit un avenir non manichéen, qui disent aussi qu'il existe un pays sur lequel, il est vrai, on n'écrit rien de positif, mais que personne connaît, et non pas parce que y a un interdit, c'est que les gens se refusent à le connaître.
À quel jeu jouiez-vous dans votre quartier, votre ville ?
Je joue la carte, la famille, la carte famille.
Je joue à la poupée à la maison, à la corde, à la marelle.
J'étais à l'école... C'est-à-dire à l'école des Arabes, quoi. On a le Kora.
Le golf.
Le golf, voilà.
Oui, en arabe, il s'appelle le Kora.
Ah,
mais le golf, il est sorti de les Arabes.
Oui.
Allez, ça fait, je ne sais plus combien d'années. C'est 14 ou 15 siècles.
Oui.
Pourquoi être parti ? Pourquoi avoir choisi la France ?
Pour travailler, pour gagner ma vie. Avant, en Algérie, il n'y a pas de travail. Parce que moi, j'ai fait l'armée française et j'ai fini en France. On a appris langue française et arabe.
Et pourquoi la France ?
Avant, on n'a pas de droit.
Ils n'avaient pas le droit.
On n'a pas de droit fini ici en France.
Oh.
Quand on a gagné la dépendance, on a le droit fini. Avant, il y avait la guerre.
Et 50 ans après, Zahir Hamani, de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, ce sont vos mots d'ailleurs, je crois, s'octroie le droit de ne plus donner d'elle-même la moindre représentation.
Alors, ça veut dire aussi que c'est un pays qui a un problème avec l'histoire, et surtout son histoire contemporaine. C'est-à-dire que tant qu'on traite de 1830-62, on est tous d'accord, et quand il s'agit de traiter de l'Algérie après 62, là, il y a une difficulté en Algérie. tant que vous passez 50 ans de votre vie à fabriquer quelque chose qui serait la propagande liée à un peuple héroïque, ça va. Mais là, le peuple algérien, de cette propagande, il en veut plus. Il veut quelque chose qui soit des documents, des archives respectées, une histoire, des hommes et des femmes qui ont participé de cette histoire, qui ont été écrasés, qui ont disparu, et pour lequel il faudrait faire un travail. Il y a eu un effort énorme de la part d'une population qui a subi quelque chose d'extrêmement violent et très dur. 8 ans de guerre, c'est beaucoup quand même, hein. Mais aussi un après 62 extrêmement difficile à vivre, qu'on le veuille ou non, parce que ça laisse des traces, ce colonialisme. Et puis c'est un déchirement pour vous de devoir finalement vous défaire d'une part de ce qui était aussi... le quotidien. Bon, le peuple, à nouveau, est dépossédé de son avenir. Ils veulent, en fait, quelque chose qui soit une vérité. Tout ça est long et complexe, quoi. Voilà.
Oh mon Dieu, moi je dois m'en aller. Venez, chers amis.
Tu vois ça ? Je sais plus où est le truc.
Ouh. Alors, est-ce que vous pensez que je peux partir quand même ?
Merci.
Made in Algeria, la fabrique coloniale, c'était une édition de la Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani. Tous nos remerciements au MUCEM et particulièrement à Zaya Rahmani, co-commissaire de l'exposition Made in Algeria, pour nous avoir guidés et avoir accepté de nous confier son histoire personnelle. Ses livres, Mose, Musulman et France, récit d'une enfance, sont aux éditions Sabine Westpizer. Made in Algeria se visite jusqu'au 2 mai et se réécoute sur RFI.fr où vous pouvez nous écrire marche.monde@rfi.fr. Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission, réagissez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
حزب الثوار وحنا محي والاستعمار الله الله